succès Drugstore Cowboy avec Matt Deep. Si Good Will Hunting, qui a remporté 2 Oscars en 98, est une pure fiction, vous vous inspirez encore de la réalité, en l'occurrence de la tuerie du lycée Columbine pour Elephant en 2003. En 1999, 2 ados avaient assassiné 12 élèves et un professeur.
Probably for the reasons of not feeling included in society and feeling that they never would be, no matter how old they got.
Avec Last Days en 2005, vous imaginez les derniers jours du chanteur de Nirvana, Kurt Cobain, avant son suicide. 3 ans plus tard, Milk évoque le parcours d'Harvey Milk, homme politique militant pour les droits homosexuels, assassiné à San Francisco en 78.
His death actually brought him into the most prominence. I think that was the sort of big thing that made him a martyr for his community.
Aujourd'hui, vous prenez donc appui sur l'histoire de Tony Kéritsis. En 77, cet Américain a pris en otage un dirigeant d'une société de crédit immobilier qui l'accusait de l'avoir ruiné. Le tout suivi en direct par la télévision.
I'm the man that was called a kidnapper. I'm a goddamn national hero. And don't you forget it.
Dans La Corde au Cou, Bill Skarsgård incarne Tony Kéritsis.
That never bothered me.
Dans le film, précisez-vous, Tony est coupable de plein de choses tout en ayant une forme de courage.
Toutes ces fusillades, et Dieu sait que vous connaissez le sujet puisque vous avez filmé, vous avez réalisé Elephant qui se fondait sur la fusillade de Columbine. Il n'y a pas aussi un problème avec la circulation des armes à feu en vente libre dont d'ailleurs peut disposer Tony Kéritsis?
No doubt. Yeah, I mean,
oui, sans aucun doute, bien sûr, à l'époque, dans les années 70, mais aussi de nos jours, oui, on peut aller acheter une arme à feu très facilement. Il y a beaucoup, beaucoup d'armes à feu en circulation, c'est vrai. Et c'est un problème, je pense.
Le jeune Luigi Mangione, vous vous doutez bien qu'on va parler de lui, parce que Luigi Mangione a assassiné en 2024 le patron d'une compagnie d'assurance. Il considérait que le patron de cette compagnie d'assurance l'avait spolié, l'avait lésé. Et vous avez fait allusion à lui quand vous avez évoqué votre film. Vous avez dit, moi, j'ai été estomaqué par cet assassinat. Mon assistant, qui a 25 ans, trouvait qu'on devrait lui ériger une statue dans Central Park. Donc ça veut dire que l'Amérique est fracturée autour de l'humiliation, de la violence et de la vengeance.
Il y a une fracture peut-être entre les classes d'âge. Ce sont les plus jeunes, vraiment, qui, à mon avis, sont plus impliqués dans cette cancel culture et qui sont un peu plus actifs, qui sont plus pro-Mangione, je pense. Bizarrement, pour moi. Mais moi, je suis trop vieux pour ça.
Mais l'Amérique, c'est le pays de la désobéissance civile qui a été théorisé au milieu du 19e siècle par un philosophe que vous connaissez, Thoreau, et qui évoquait la non-violence. Comment vous expliquez le recours à la violence perpétuelle quand il y a humiliation et colère?
Vous voyez, moi je ne sais pas, j'y vis simplement, je ne reconnais pas vraiment tous ces pourcentages. Et dans mon quartier, bon, c'est un quartier assez riche, hein, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a énormément de violence aux États-Unis.
Oui. Alors, Gus Van Sant, on va évoquer avec vous des Américains qui veulent quitter les États-Unis parce qu'ils ne supportent plus le régime politique de Donald Trump.
Oui, deux de vos confrères réalisateurs ont fait le choix de l'exil. Jim Jarmusch, qui a demandé la nationalité française, et James Cameron, qui est parti s'installer en Nouvelle-Zélande, écœuré par la politique de Donald Trump. Et c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. 4 Américains sur 10 envisagent aujourd'hui de s'expatrier dans l'espoir d'avoir une vie meilleure, un chiffre qui n'a jamais été aussi élevé depuis la réélection de Donald Trump et qui dépasse même les 60% chez les plus jeunes. Coût de la vie trop élevé, insécurité, tensions politiques et sociales, autant de raisons qui poussent ces Américains à émigrer. Quitter l'Amérique serait même devenu le nouveau rêve américain, selon le quotidien britannique The Independent. Et parmi les destinations les plus prisées, eh bien, il y a les pays d'Europe, où la scolarité est souvent gratuite et les frais de santé bien moindres qu'aux États-Unis. Alors après un siècle de ce mythe du rêve américain, est-ce que vous pensez que c'est bientôt fini ?
C'est possible, oui, tout à fait. C'est peut-être le début de la fin, pas simplement pour l'Amérique, mais pour le monde, je pense.
Gus Van Sant, juste une question quand même. Vous avez eu acheté votre première caméra en 68 parce que vous faisiez des petits travaux d'été à New York et vous avez commencé à tourner. Je crois que c'était d'ailleurs, c'était quoi une caméra? Une 16 mm. Et je me demandais en 68 si vous étiez déjà inspiré par peut-être le cinéma de Jean-Luc Godard qui lui en 68 avait tourné Masculin-Féminin, La Chinoise notamment. Est-ce que c'était quelque chose qui commençait à vous hanter ou à vous inspirer quand vous étiez tout jeune cinéaste que vous démarriez vos premiers courts-métrages?
Non, à l'époque, j'étais plus inspiré par Stan Brakhage et Stan Van Der Beek, vraiment du cinéma expérimental qui dessinait sur la pellicule et qui filmait leurs fans, mais pas encore Godard. Godard, c'était peut-être une petite influence plus tard pour moi, dans les années 70. Je n'avais pas connaissance de Jean-Luc Godard à l'époque.
Benjamin. Dites-vous qui aimait les deux psychoses de Hitchcock, est-ce que vous seriez tenté de refaire un de vos films avec 100% d'intelligence artificielle, par exemple? Est-ce que ça vous fascine ou pas, ces nouvelles technologies?
Oui, là je suis fasciné par les nouvelles technologies, sans aucun doute, mais le remake de Psycho, c'était quelque chose qui était un petit peu...
Insane.
Comment dire, c'était un peu de la folie vraiment, mais c'était aussi quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, où l'on conservait vraiment l'autorité du réalisateur de bout en bout dans un remake au lieu de changer le film. Donc c'était une énorme expérience pour moi.
Vous diriez que vous êtes cinéaste et beatnik, un néo-beatnik ou une survivance des beatniks, pour terminer?
Oui, je suis influencé par les beatniks. J'ai lu Kerouac et Burroughs, Ginsberg. C'était des grands enseignants pour moi. Et j'ai fait jouer Burroughs dans Drugstore Cowboy. Et j'ai fait aussi un film pour Ginsberg. Et donc, j'ai pu rencontrer mes héros. C'était super.
C'est vous, notre héros. Voilà. Icône de la contre-culture, le jeune Gus Van Sant, auteur de La Corde au cou. Votre film sera présenté demain soir pour les non-parisiens qui veulent aller à Reims dans le cadre du Festival international du film policier. Il fera l'ouverture en majesté de ce festival. Et puis ce soir, c'est une présentation en avant-première, mais là c'est déjà trop tard, à la Cinémathèque française. Le film sort le 15 avril sur tous les écrans français. Merci Gus Van Sant et merci à votre interprète Anthony Rouen.